Qu'est-ce qu'on déguste vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons d'Or à Bastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste? Bonjour. You need a sweet man.
On arrive. Salut à tous, ne vous impatientez pas. Vous avez perdu le tire-bouchon.
Qu'est-ce qu'on déguste, monsieur, dame? La meilleure émission pour démarrer le meilleur des week-ends. Ce week-end, il va faire 38 degrés dans le sud-ouest de la France, donc en Tarn-et-Garonne, dans le Tarn, dans l'Aveyron, dans le sud du Lot, dans le Gers. Nous n'y couperons pas, nous allons suffoquer. Il y aura bien sûr un petit peu de vent, mais comme il viendra du sud-ouest, évidemment, ça va être du vent super chaud. Donc,
mais c'est plus qu'est-ce qu'on déguste, c'est la météo marine que tu nous fais.
Mais oui, mais parce qu'elle est importante, cette météo. Voilà. Parce que eh bien, tout le monde va pouvoir vraiment profiter. Attention, voilà, merci. Tout le monde va pouvoir vraiment profiter eh bien, de son petit bout de jardin, de son barbecue, de sa piscine, de son nouveau frigo américain que l'on va s'empresser de remplir de vin blanc, de vin rosé et autres boissons alcoolisées ou non, que nous boirons de toute manière toujours avec
modération.
Modération.
Elle est jolie, modération.
C'est celle qui arrive toujours à s'inviter partout, celle-ci. Pascal Olivier, bonjour.
Eh bien, rebonjour.
Alors, cette longue introduction pour le rosé piscine que nous allons déguster.
Eh bien,
ce
bien
soir
sûr. Avec, on a une foison de rosé sur la table. Alors, aujourd'hui, nos invités, c'est la cave de Fronton.
Et la cave de Fronton, c'est.
C'est Xavier Briouat.
Pour ce soir, c'est Xavier Briouat.
Qu'on avait déjà reçu en direct à Alorchante.
Ça va depuis Alorchante?
Très très bien. Très bien. Il fait chaud, c'est parfait.
C'est plus tranquille ici. Là. Il y a moins de monde.
Il y a moins de photographes autour de Zaz.
On risque pas d'avoir Zaz qui vient nous squatter. Dommage. Du temps d'antenne.
Quoique.
Il y aura pas Charles Lee qui nous parlera de son vin.
Pourtant, Zaz est quand même beaucoup plus joli que monsieur. Je veux pas non plus faire mon footeur de merde.
Si t'avais eu le choix.
Être pas moins de place. C'est sûr.
Bonjour Gaël.
Bonjour.
Ça va?
Ça va très bien.
Très amateur de rosé piscine.
Bien sûr. Surtout depuis que j'ai plus de piscine, mais j'ai un frigo.
Donc oui. Alors, voilà. Tout va bien. Tu peux le
remplir. Tout va bien.
Fabien est là également.
Salut tout le monde.
On a une pensée pour Georges qui est absent, mais à qui on passera un petit coup de fil.
Oui, parce,
que... parce
qu'il est au boulot. Il va jouer ce soir. Il est à Eros et il fait un petit concert. Donc on l'appellera à l'heure de l'apéro pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il boit.
Quant au professeur Barnaclub, il est déjà en stage.
Bonsoir.
Il n'est pas là parce qu'il est en stage. Vous savez, maintenant, quand on fait un emploi. De temps en temps, quand on veut trouver un emploi, on fait des stages en entreprise comme ça. Et lui, comme il sait qu'il va passer bientôt de l'autre côté, il fait des stages à la morgue de temps en temps. Il va s'enfermer un peu.
Ah, c'est bien.
Au frais. Il en a mis une barbacule. Au frais.
Il prend des bains de boue pour s'habituer.
Ah, bravo.
Et c'est dommage que Georges soit pas là parce qu'en plus, ce soir, on va aussi parler du festival jazz.
Vinovali, effectivement, qui se déroulera du 20 au 23 juillet sur tous les sites de Vinovali.
Ah ben voilà, on a du pain sur la planche, monsieur, dame. Aurélien est à la technique. Les bouteilles se sont débouchées. On commence avec ça, je sais pas ce que c'est, mais ça peut être que bien.
Sir, kindly please let me speak my mind.
work with you so kindly. Please let me speak my mind. So much blood upon your hands. How can you make valid claims to define yourself as civilized? Murder hides behind your smile as they fall for your profile. Find another fool to sympathize.
Tarani, pas de place.
Non.
Mais bon, mais on peut... moi je pensais qu'on commençait par le plus léger. Le plus léger, c'est pas le, le rose épicé.
Bah, disons que si on met les glaçons aussi, ça va être le plus léger. Mais...
Allez.
Ah, mais je sais pas, moi justement. Si, il faut, faut qu'on mette les glaçons normalement, non?
Allez.
Le vin, c'est du plaisir.
Allez.
Oh, puis on se passe.
Ah non, 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 mais moi j'ai dit rose épicine, c'est rose épicine.
Rose épicine.
Glaçon.
Tiens.
Avec des glaçons.
Glaçon.
Absolument.
Et par-dessus, le rosé.
Fais-nous le bruit de la piscine parce qu'il y
en a. Ah, j'ai pas la. J'ai plus la piscine.
Et un rosé piscine. Un...
Ah. Ouais.
Et deux rosé piscine. Glaçon. Rosé piscine. Il est pas super frais, hein.
J'avais pas de glacier.
À la vôtre, messieurs.
Monsieur.
Alors, si vous avez attrapé ce qu'est-ce qu'on déguste sur Fela Kuti, que l'on vient d'entendre et qui sera... C'est pas Fela Kuti, c'est Cocolo, pardon. Mais ça ressemblait à Fela ou à Femi, hein, à Femi Kuti. Ça m'a fait penser à ce festival que j'aime beaucoup et dont je vous parle très souvent, qui est le festival Africa Jar, où est programmé cette année encore Femi Kuti. Et il y aura encore le staff Bendabilili et tout un tas d'autres... Très bon, très bonne chose. Ce sera 22, 23, 24. Non, c'est pas ça. 29, 20, 28, 29, 30 juillet. Alors,
effectivement, ça sent le
corps. On y est là. Hein. Là on y est.
Xavier Briouat. D'abord, il n'est pas très frais votre votre épicine.
C'est pour ça qu'il faut mettre des glaçons.
Et toi?
Absolument, avec des glaçons, c'est marqué dessus.
Bah oui, absolument.
Donc on le, en fait, on le met pas là. Racontez-nous, s'il vous plaît, Xavier, racontez-nous d'abord l'histoire de ce rosé piscine, parce que si vous avez traversé à la mise auditeur la région ces derniers temps, vous n'avez pas pu passer à côté de ces grands 4x3 sur lesquels on vous propose ce rosé à boire avec des glaçons. Racontez-nous son histoire.
Eh bien, cette histoire.
Et arrêtez donc d'ouvrir des bouteilles, on n'est pas d'amis. Désolé.
Ouais, 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 vas-y.
Parce que la modération, il va falloir qu'elle amène des copines. On se calme.
Il n'arrête pas.
Il y en a encore.
Ça suffit.
Il en nage.
Ça suffit.
Mais disons que bon, c'est en fait un produit qui est né de l'observation simplement des goûts des clients. Et notamment des femmes qui sont les premières personnes à acheter du vin. On s'est aperçu qu'un consommé du vin, et notamment des rosés, en été, avec des glaçons. Boissons rafraîchissantes, les hommes étaient plutôt sur le côté bière, sur des vins, d'autres vins un peu plus structurés, et les femmes étaient plus facilement sur des rosés, et des rosés frais. Très frais. Donc est venue l'idée de travailler sur la concentration des produits, afin de pouvoir justement mettre des glaçons dedans, et offrir un produit qui soit très aromatique, malgré le fait qu'il soit dilué avec des glaçons.
Et vous vous êtes pas dit que si on mettait des glaçons, c'est peut-être parce que justement on le trouvait trop aromatique et qu'on souhaitait le... avoir un petit peu plus de goût de flotte finalement dans votre rosé.
Peut-être, peut-être qu'il n'était pas assez auparavant. Maintenant oui, il vaut mieux mettre effectivement
donc,
des glaçons.
Donc en fait c'est un rosé qui est très concentré quoi.
Voilà, voilà. Ouais. On va chercher le côté floral, le côté très, très doucereux. Donc on va être sur des choses.
Comment, comment on fait pour concentrer pour concentrer tout simplement le goût par rapport à un autre rosé, par rapport à l'Inès ou par rapport au
En fait,
au Tarani.
Mais en fait, ça commence déjà un peu à la vigne. On va travailler différemment des parcelles en fonction du type de rosé que l'on veut avoir. Nous avons une chance au niveau de la cave de Fronton, c'est que nous faisons 50% de notre production en rosé. Donc nous avons un gros travail déjà de sélection parcellaire, fait en partenariat avec nos adhérents, bien sûr, tous nos vignerons qui sont dans la vigne tous les jours. Et on va sélectionner les parcelles pour arriver à faire tel ou tel produit. Donc sur le rosé piscine, bon, moi je ne suis pas un grand technicien de la vigne,
ouais.
Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on va justement chercher à chaque fois des choses qui vont essayer d'être le plus en plus concentrées.
C'est pas les fonds de cuve.
Ah non, pas du tout. Au contraire même, je dirais, c'est plutôt le dessus de la cuve.
Le dessus de la cuve.
Pour avoir justement une couleur qui soit très 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 claire. On cherche une couleur claire.
Ça reste sucré même avec
les. Ça reste sucré, oui.
Combien de degrés d'alcool?
C'est on est à 12 degrés là-dessus. Ouais.
C'est presque un rosé doux, presque.
Oui. On est presque sur ce concept-là.
C'est ça.
Avec, et on peut consommer avec des glaçons derrière, c'est très très frais, c'est très rafraîchissant.
Alors, effectivement, par rapport à ce que tu disais, j'ai fait un petit sondage rapide et les amatrices de rosé piscine, c'est des filles.
Oui.
Et à 80, on va dire à 99%, chaque fois que j'ai dit rosé piscine, les mecs m'ont dit bah! Et puis les filles m'ont dit, oh là là, on adore ça, on en boit des litres.
Eh ben moi, voilà, j'ai super. Été étonné que les gens le connaissent aussi bien. Parce que du coup, j'en ai parlé aussi autour de moi. Et on m'a dit, ah ouais, le rosé piscine, oui, je connais, j'en bois. Ouais. À peu près, allez, on va dire sur les 10 fois où j'ai dû en parler, on va dire que 7 fois, on m'a dit, oui, j'en bois. Donc c'est quand même quelque chose qui existe bel et bien. Depuis combien de temps vous avez lancé cette marque du rosé piscine à Fronton?
Cette marque a été lancée il y a 4 ans maintenant. Donc là, au début, ça a été très, très confidentiel. Et puis là, ça fait vraiment 2 ans où ça a complètement explosé en termes de vente. Il faut dire que l'arrivée de Vinovali a permis aussi de faire un peu de communication. Et ça, c'est typiquement le produit qui nécessite justement d'être connu.
Mais qui a trouvé ce nom, rosé piscine?
Ça, c'est notre directeur général, à nous.
Ah, il est fort le gars là, parce que là, il fallait le trouver.
Et vous le trouvez, on le trouve où? C'est vraiment sur la région ou vous en vendez
Écoutez, dernièrement, j'étais à Bayonne, on m'en a parlé, du rosé piscine. Donc en fait, on le trouve aujourd'hui, on peut le trouver partout en France.
Alors,
même à l'étranger.
Vous avez vu que sur la table, je vous ai mis tout ce qu'il faut pour un apéro piscine. Hein.
C'est très chimique, c'est sous plastique.
Non mais voilà, mais apéro dernière minute, je suis monté, tu sais, il y a un petit un genre de petit supermarché à côté de la police là-haut, là. On est voisins là, à 100 mètres. Et voilà, j'ai acheté des petits surimi parce qu'on a tous des surimi à l'heure de l'apéro, là, tu sais, hein, des petits trucs bien chimiques au pétrole.
Ouais,
des petites tomates cerises.
Industrielles.
Qui n'a pas des tomates cerises à l'heure de l'apéro? Elles viennent du mini market qui est là.
Oui. Les tomates, elles viennent d'où?
Les petites tortillas. Petites tortillas.
Sous plastique.
La rosette.
Il y a quand même de la rosette.
Le
Monsieur Chevard n'écoutait plus, c'est plus la peine.
Les petits chouchous qu'on mange par dizaines de kilos, les pralines qu'on mange sur les marchés nocturnes.
Et du tuc à toute heure.
Et obligatoirement du tuc. C'est ça qu'on va retrouver sur les apéros, forcément, les apéros où on se casse pas trop le bol. Hein, voilà. Un apéro fait en 10 minutes, quoi. Non?
Du mini-market.
Du mini-market, mais oui.
Les copains débarquent à l'improviste, tu fais un saut au
supermarché. C'est sûr que si vous allez boire l'apéro chez Pascal Olivier... Enfin, boire l'apéro chez Pascal Olivier?
Ah bon, comme ça? On est invité?
On m'avait tout bu, salopard.
Alors Gaël, c'est à toi que...
Bah d'accord,
écoute. C'est toi qui démarre la première chronique.
N'existant pas beaucoup de bandes dessinées sur le vin, je me suis rabattu sur autre chose. J'ai trouvé un détective. Alors il y a quand même un petit rapport, puisque donc ce détective s'appelle Tony Chu et il a une particularité. Et le tome 1 de ses aventures se dévore. Vous allez savoir pourquoi je dis ça. Et c'est un vrai régal. Et c'est pas parce qu'il est fréquemment question de cuisine, même si c'est le cas dans ses aventures. Et dès les premières pages, on est absorbé par une ambiance déjantée, ce personnage génial, et son pouvoir qui est assez original, parce qu'il est cibopathe. Alors est-ce que l'un de vous ici sait ce que c'est?
Il graisse des dents.
Eh ben pas du tout, c'est pas très loin en même temps. Bon, je me doutais un peu que Personne n'aurait entendu parler de ce don. Il est cybopathe, donc cela signifie qu'il est capable de retracer psychiquement la nature, l'origine, l'histoire et même les émotions de tout ce qu'il mange. Alors, ça l'empêche pas d'être aussi un bon policier tout à fait respectable lorsqu'il ne goûte pas à la victime d'un meurtre afin de découvrir l'identité du coupable et ses motifs. Alors, il y a un petit côté Dexter. Bon, mais sa faculté peut s'avérer particulièrement utile pour un inspecteur de police, surtout qui, lui, après sa rencontre avec un personnage qui s'appelle Mason Savoie, qui travaille au RAS. Alors, pareil, petite question, est-ce que vous savez ce que peut vouloir dire RAS ?
Rien à signaler.
Et non, répression des aliments et stupéfiants. Voilà, donc, qui va, ce personnage, Mason Savoie, qui travaille pour cette organisation, va changer sa perception et l'utilisation de son don. Et ensuite, les enquêtes vont succéder au fil des chapitres et suivre un fil conducteur assez prenant. Car la narration est vraiment une vraie réussite. Régulièrement, on a quelques éléments et puis on revient dans le temps pour comprendre comment on est arrivé à cette situation. Alors, le procédé marche assez bien parce que les situations sont vraiment saugrenues et on a du mal à s'imaginer comment en arriver là. Ensuite, les pièces du puzzle vont se remettre dans l'ordre avec bonheur à la lecture de chaque chapitre. Alors l'ambiance est vraiment très bien. C'est à la fois sombre et gore, mais en même temps drôle et cynique. Le cocktail est assez maîtrisé et on plonge dans cet univers sans s'en rendre compte. Le dessin, les couleurs, les dialogues, le ton employé, toutes les situations surréalistes et la galerie de personnages, tout contribue à cette ambiance jubilatoire. Alors, le dernier chapitre m'a un peu laissé sur le cul. Je m'attendais pas du tout à ce que l'histoire prenne ce tournant et j'ai vraiment envie de lire la suite. Donc voilà, le tome 2 s'appellera Un goût de paradis. Le premier tome s'appelle Goût d'essai. Le scénario est de John Lehman, le dessin et les couleurs de Rob Guillory. C'est édité chez Delcourt, ça fait plus de 150 pages et ça vaut une quinzaine d'euros.
Non, François, après 150 pages, ça commence à être de la...
Alors, on fait bah, un petit coucou à... Comment il s'appelle
Anthony,
qui nous écoute depuis sa boutique, la cave à vin, installée au Route du Nord à Montauban, qui nous dit « Rosé piscine, rosette, surimi, tuc, je préfère être chez moi. »
Oui, surtout que l'autre jour, il m'a sorti un comté suisse de derrière les fagots, avec un petit quelque chose qui était bien.
Mais donc, tu vois, Anthony,
arrêtez de tous critiquer les apéros rapides.
J'aime bien les choses simples aussi. Et franchement, ce genre d'apéro là, moi, dans l'été, j'en fais bien plus souvent que les petits apéros qui vont me coûter aussi parfois un bras. Ça coûte pas cher et c'est bien.
Voilà, c'est de la merde, mais c'est de la bouffe industrielle. Alors, je vais vous raconter une histoire tout à l'heure sur de la bouffe industrielle. Voilà, vous allez voir les limites de la bouffe industrielle.
Alors, attends, justement, là par contre, maintenant, je te propose de faire une rencontre avec un gars qui est loin de faire de la bouffe industrielle, puisqu'il s'appelle Hervé Cournède et qu'il se dit paysan. Boulanger.
Non, il se dit pas, il est paysan boulanger.
Il se dit paysan boulanger ou il est paysan boulanger?
Ben, il est paysan boulanger.
Hervé Cournède, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien.
Alors, si on vous passe un petit coup de fil, en fait, c'est parce que, alors c'est pas pour ce week-end, mais le dimanche 3 juillet, vous ferez ferme ouverte, en fait. Hein, vous accueillerez du public dans votre ferme qui est à Kerriech.
Et où c'est dit Kerriech?
C'est après Caussade, à côté de Caussade. Ouais. Alors dites-nous, Hervé Cournette, ça consiste en quoi être paysan boulanger, s'il vous plaît?
À produire du blé, à le transformer en farine et à le transformer en pain. Donc paysan, meunier, boulanger. C'est-à-dire on mène le produit de son origine au consommateur direct.
D'accord. Donc bien sûr le blé... Vous mettez plein de produits chimiques, vous mettez tout ce qu'il faut. Le pain, vous mettez des levures aussi industrielles, etc. Dites-nous, c'est ça, non?
Alors, moi, je suis... Non, pas du tout. Parce que je suis...
Pardon?
Je suis en agriculture biologique. Je suis en agriculture biologique, dont le cahier des charges pour le logo AB, hein, puisque c'est comme ça, c'est sans produits chimiques, sans produits de synthèse, sans OGM. Voilà. Donc, aucun produit d'origine industrielle ou chimique ne rentre dans la fabrication ou la production de produits en AB.
Bon, et le pain après, ok, vous avez du bon blé parce que c'est vous qui le faites pousser. Et le pain, bien sûr, vous mettez de l'eau chimique, vous mettez des levures chimiques, etc., etc., pour faire pousser votre pain.
Alors, c'est le pain est levé au levain naturel, c'est-à-dire au levain sauvage. Le mien, il a à peu près 12-15 ans.
C'est le même chaque fois que vous réemployez votre levain naturel?
Oui, je le remploie chaque semaine en le remultipliant, tout simplement, en rajoutant de la farine et de l'eau, on remultiplie le levain en permanence et perpétuellement.
Hervé Cournède.
Par contre, l'eau, alors là, on peut pas faire autrement. La législation nous interdit d'utiliser de l'eau de puits ou de cours d'eau. Donc, où on fait partie des gens qui utilisent de l'eau du réseau communal classique, sans dire de nom de société qui vient de l'eau, ou alors de l'eau de source en bouteille.
Et vous faites quoi alors? C'est de l'eau communale. Hein?
De l'eau communale.
De l'eau de chez machin. Oui, donc oui, une goutte d'eau par litre de Javel, c'est ça, je crois qu'on...
Ouais.
Je sais pas combien il y a de Javel, mais malheureusement, on peut pas faire autrement. Il faut acheter des palettes entières d'eau de source.
Donc, et vous pétrissez, vous avez votre...
J'ai juste une question sur le levain, parce que aujourd'hui, tu sais qu'il y a les enfants qui savent plus d'où vient le lait. Je crois que ça se fait au supermarché, qui ont jamais vu un lapin d'une poule. On a l'impression comme ça qu'on sait aujourd'hui ce que c'est que le levain. Tout le monde sait qu'il faut du levain pour faire du pain. Mais quand j'entends Hervé Cournède me dire que c'est le même levain qui est là depuis 15 ans, je voudrais juste qu'il nous réexplique de façon pédagogique, comme ça, pour les enfants que nous sommes ou que nous avons, ce que c'est que le levain et comment ça marche.
Le levain, c'est une pâte fermentée, une pâte de farine d'eau fermentée. Dans ces farines, il y a des levures naturelles. Et ces levures, en rajoutant de la farine... de la farine fraîche et de l'eau, on entretient ces bactéries puisqu'elles se nourrissent de l'amidon. Donc, semaine après semaine, en rajoutant de l'eau et de la farine à ce levain, on obtient toujours le même levain. En sachant que c'est pas le même, c'est-à-dire que c'est la multiplication et la division.
C'est comme la mer pour le vinaigre.
Exactement pareil, c'est le même principe. Que la mer pour le vinaigre.
D'accord. Alors Hervé Cournède, vous commercialisez votre pain à la ferme, où on peut le trouver par exemple sur le site internet grainesdeterroir.com.
Oui.
Ouais.
Oui. Donc je vends à la ferme. Je vends sur grainesdeterroir.com, au marché le jeudi après-midi, au marché bio de Montauban, au marché de la Fourguette à Toulouse et au marché de Balma à Toulouse.
Il faudra qu'on fasse une autre émission sur le marché bio de Montauban.
Pas forcément que du local, puisque je vends en Tarn-et-Garonne dans des magasins bio, dans des épiceries bio. Je vends à Toulouse, en Bretagne et à Paris.
Vous faites.
Donc ça, c'est de l'expédition. Hein.
Ça représente combien de pain par semaine, une production chez vous?
Moi, je ne produis pas beaucoup. Ça représente 50-60 kilos de pain. Comme je fais beaucoup de farine... en vente directe,
Oui, pour des gens qui veulent se faire...
En produire plus.
Donc le 3 juillet, vous ouvrez vos portes, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le programme?
Oui, le programme. Donc, visite de la collection de blé ancien. J'ai une collection de 200 blés anciens, c'est-à-dire du blé sauvage jusqu'au blé des années 50-60, plus deux blés beaucoup plus récents, des années 80. Pour expliquer un petit peu le cheminement de la domestication à tous ces problèmes de maladies dues au blé, dues au gluten, et entre autres les allergies et les maladies cœliaques. Donc, tout au long de la vitrine, de l'explication des blés, j'aborderai tout ce que la sélection, au départ sélection paysanne, puis sélection des industriels de la semence, ont créé comme souci, non seulement agronomique, mais aussi au point de vue santé.
Pascal, il faudrait qu'il y aille faire un reportage.
Oui, j'allais faire du blé surtout là-bas.
J'allais faire du blé.
Non, on reviendra. On reviendra voir ça.
Mais on vous invitera.
Moi, je veux faire un battle de pain depuis très longtemps. Donc, toi, tu es là de ton côté. J'en ai deux autres sous le coude. On va faire un de ces quatre. On va faire un battle de pain terrible.
Bio. Cournède, merci d'avoir été avec nous. Paysan boulanger à Kerrièche. Vous ouvrez les portes de votre ferme le 3 juillet prochain. Oui. Merci.
Oui, il y a un marché gourmand. Hein, c'est-à-dire qu'on peut manger sur place.
D'accord. Est-ce qu'on y boira du rosé piscine?
Comment?
Est-ce qu'on y boira du fronton du rosé piscine?
Non, on boira du kersi bio.
Du lafage. Du lafage.
Du lafage.
On amènera les glaçons, c'est bon.
Et il y aura du trésor du kersi qui est un apéritif.
Ça c'est pas terrible.
Arrêtez avec ça.
Arrêtez avec vos apéritifs alambiqués là.
Non, c'est pas bon. C'est pas bon.
Mais le lafage.
Mais on viendra.
Allez, merci Hervé Cournède.
Au revoir.
Au revoir.
You need a real man.
vous faites pas ça, vous, hein, les apéritifs alambiqués comme ça. Vous avez pas un Quercy des îles,
un fronton avec le fruit de coco?
Non, pas encore.
Truc mélangé.
Ils vont faire, mais ils vont y arriver. Ils vont y arriver.
Non, mais c'est vrai que chacun là, dans ces micro-régions, essaye de faire son petit apéro, ce qu'on conçoit complètement, quoi. Hein, mais il y a des fois, c'est pas très heureux, je trouve, tous ces mélanges, quoi, justement, un peu sucré, un peu. On met un peu de chasselas, on met un peu de négrette, on met un.
Un glaçon. un trait de pastis, et tout ça, ça fait. Tout ça, ça fait excellent apéro.
Le calimucho. Le calimucho. Non, allez, on revient dans quelques instants pour la suite de Qu'est-ce qu'on déguste avec notre invité aujourd'hui. Xavier Briouat, directeur adjoint de la cave de Fronton, qui fait partie donc de Vinovali, qui est le partenaire de cette émission.
CFM à Montauban. 101.2.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Fronton et des Côtes d'Olt? Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste la suite, messieurs, dames? Il faudrait que vous entendiez de temps en temps ce qui se dit, même ici hors antenne, autour de la table de Qu'est-ce qu'on déguste. Même nous ne sommes pas forcément toujours d'accord entre nous. Pascal Olivier Sofus.
Voilà, ce que veut dire, c'est qu'on n'est pas tous d'accord avec Pascal Olivier. C'est ça que tu veux dire. Pascal
Olivier. Mais pour le coup, j'étais d'accord avec lui, Pascal Olivier Sofus, que parce que certains font. Des apéros au rabais, le RSA non, de l'apéro est à ma gauche et
pas au rabais
le
taureau
de l'apéro non, est non, à
pas
ma
au rabais de la qualité.
J'ai pas dit que c'est
ce que je faisais. Je soutenais que c'est pas, enfin, que souvent ça c'est. Tout le monde fera pas la différence et que c'est aussi sympa d'être entre potes avec des trucs même chimiques.
Oui, mais après quand t'as ton gosse qui est au pieu et qui chie du sang et tout ça, t'es pas bien quand même, hein, parce que là
faut lui faire boire du whisky à ton gosse.
Il faut quand même pas déconner. Allez acheter chez votre commerçant de proximité des bons produits, allez au marché, circuit court, regardez ce que. Mais parce que maintenant.
Et vous verrez qu'en plus vos commerçants de proximité s'en portent d'ailleurs eux-mêmes beaucoup mieux quand vous voyez ce qu'ils mangent eux-mêmes.
Hein. Bah bien sûr, ils mangent les invendus.
Allez sur le marché des producteurs à Montauban et tout à fait au bout, vous avez l'allemand là à qui on achète du gras.
Oh, ça c'est bon!
Oh, ça c'est bon, il parle comme ça! On voit qu'il est en forme, bah,
il boit 10 litres de lait bio,
il boit pas que du lait,
semaine. Non mais attendez, écoutez celle-là.
Ça va s'arrêter.
Mon camarade Patrick Combalbert qui m'envoie ça aujourd'hui, sans scandale de fromage recyclé et avarié en Italie. 2 années d'enquête ont été nécessaires à la police italienne pour mettre fin à un juteux trafic de fromage avarié. Ouais. 11 000 tonnes de fromage périmé qui ont été revendues par 40 sociétés italiennes, britanniques, allemandes et autrichiennes à 3 sociétés italiennes et à 1 allemande, toutes dirigées par un homme d'affaires sicilien. C'est pas mal ça, les mecs ils se rachetaient du fromage pourri. Et notamment la marque Galbani, qui était le principal exportateur de fromage italien, ils vendaient les produits non consommables, mais rachetaient également la pâte recyclée. Donc les risques pour la santé, l'altération et la contrefaçon, bien sûr, c'est dangereux pour la santé, le scandale. Oui, la crise des déchets de nappe, parce que le truc, c'était plein de dioxines dans le lait, dans ces saloperies de produits. Donc, n'achetez pas du produit chimique, du produit.
Un petit whisky ou une petite vodka dessus pour tuer les microbes.
Voilà.
C'est dégueulasse.
Je vous garantis qu'avec qu'est-ce qu'on a sur la table ici ce soir, on ne se fera pas de mal.
Oh bah quand même, si, là on va. Le tuc, non, c'est sec. Attends, la tomate cerise là, elle vient d'où? À part du mini-market? T'as pas regardé?
T'inquiète pas. T'inquiète pas, Pascal Olivier.
Je crois qu'elle vient d'Allemagne, dans une entreprise qui faisait des germes.
Moi je m'inquiète. Non, bouffez sain quand même. On peut très bien manger.
La semaine dernière, il nous a piqué dans notre réserve personnelle de l'armoire de Qu'est-ce qu'on déguste un saucisson qui datait de la Noël.
Oui,
et je peux te dire qu'on l'a mangé quand même.
Il était dur comme du bois.
Et on n'a même pas enlevé
la
peau.
Il était délicieux.
Alors après, il se plaint.
Mais non.
On écoute Zebda qui revient sur le marché.
Je crois que ça va pas être possible. Non, pas être.
C'est comme ça.
Possible. Oui. Je crois que ça va pas être possible. Non, pas être.
Non.
Possible.
Exact.
Voici mon plat de résistance, comme toutes
chacun, j'ai bossé pour ma pitance. Et histoire de vivre convenablement, je me suis mis à la recherche d'un appartement. J'ai bichonné un excellent curriculum vitae, couleur et Macintosh à toute qualité. En prime irréprochable, situation morale, et même quelques feuilles de salaire.
La totale.
Allez vas-y Diodo, fais-leur le proprio.
Oh, c'est un honneur pour moi, je vais vous montrer le patio.
Non, je plaisante car ça s'est pas passé ainsi. Quand il m'a vu, j'ai vu que tout s'est assombri. A-t-il senti que je ne lisais pas la Bible et il m'a dit:
ah oui, mais là je crois que ça va pas être possible.
Je crois que ça va pas être possible.
Mais non.
Pas être.
Désolé.
Possible.
Comme ça.
Je crois que ça va pas être possible.
Et
pas
oui.
Être. Possible.
Une excuse, monsieur.
Pour demain, j'ai placé quelques thunes pour un petit jardin, un petit nid et balcon sur la prairie des filtres avec piscine au bord de la Garonne.
Si, si, j'insiste.
Mais ce putain de bonheur n'est jamais dans le pré. J'ai appelé le bon sens
qui est
chez vous pour
Lidl.
Un prêt. Mais les banques,
c'est les banques.
Comment comment vous dire,
c'est chez Lidl.
Alors je vous fais le topo des grosses têtes.
Il vous manque des points pour compléter votre retraite, hein.
Vous devriez, me semble-t-il, pour assurer les traites,
mettre à jour et un terme à l'ensemble de vos dettes, hein. Ah ouais,
et puis il a souri en me disant c'est terrible, mais
je crois que ça va pas être possible.
Je crois que ça va pas être possible,
non.
Et eux, en fait, ils étaient allés chercher le truc sur une marque distributeur comme un casino. On était sur du sucre de canne, qui est le plus cher. Et eux, ils étaient sur le moins cher.
Du sirop de merde.
Mais je lâcherai pas l'affaire.
Nos amis Zebda avec ce déjà tellement vieux tube du siècle dernier. Je crois que ça va être possible. Que ça va pas être possible. Les Zebda seront de passage pour leur première, toute première date de leur nouvelle tournée au Doc à Cahors, à noter dans vos tablettes, le 14 octobre. Xavier Briouat, directeur adjoint de la cave de Fronton. Où s'arrête? Je suis exprès que vous taquinez, mais vous le saviez quand vous venez. Quand vous venez,
oui, vous venez, je
où s'arrête le marketing chez vous?
Et où commence le
devant,
bon produit?
J'ai devant moi le rosé piscine, la bouteille de rosé piscine, et je ne peux m'empêcher de penser, quand je la regarde, à la bouteille d'Evian, mais aussi à Vanilla Pocket, mais aussi à d'autres produits qui sont spécialement destinés aux femmes, qui sont dans les bleus, blancs légers, roses.
C'est le seul rosé où t'as une serviette périodique qui trempe dedans. C'est vraiment fait pour les femmes.
Non mais voilà, je pense que c'est alors, vraiment, c'est vraiment
là,
super.
Là c'est la grande classe,
super,
Pascal.
Super,
c'est...
Hein, mais disons la que finesse. Ça.
Bon, non mais les neufs.
Pour couronner le tout, il faut savoir que c'est un produit qui a été sélectionné par M6 pour un vin presque parfait. Donc ça c'est voilà.
Ouais.
Simplement parce que c'est d'abord des consommateurs qui ont fait la sélection des produits. On ne s'est pas arrêté au marketing. Le marketing comptait un petit peu, mais c'est surtout la qualité du produit. Et ce sont des consommateurs. Et les consommateurs ont sélectionné Rosé Piscine.
Mmh.
Donc ça, on peut expliquer tout ce qu'on veut au niveau marketing. Nos racines, elles sont dans la bouteille. C'est un japonais qui m'expliquait ça. Il m'a dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez aux alentours si vous regardez vos racines à l'intérieur de la bouteille, dans le produit. C'est ce que nous faisons, malgré tout. Et on arrive à sortir des produits de qualité par un travail énormément de travail, mais en amont, en fait. On travaille sur la vinification, sur les outils de vinification et sur tous les process industriels, mais également sur l'amont. La sélection des parcelles, il y a des parcelles qui seront plus facilement à faire des vins concentrés, tanniques, riches, tels qu'on peut trouver dans l'Astrolabe ou qu'on peut trouver dans vos Capitoles, et d'autres qui pourront faire des vins beaucoup plus fruités, beaucoup plus fringants, que l'on retrouvera plus facilement, notamment en été, tels que le Tarani, tels que le Rosé Piscine.
Ça représente quoi pour Fronton, là, le Rosé?
Le Rosé Piscine, combien de bouteilles?
300 000.
300 000?
Oui.
C'est beaucoup.
Moi,
c'est
je connais une nana qui doit en boire au moins... Vraiment ça, à elle toute seule.
Waouh.
Non mais, c'est pas énorme si 300 000. C'est une niche, comme on dit, ou c'est...
C'est une niche. Ça commence réellement à donner, mais c'est encore une niche. On reste encore sur des choses un peu confidentielles.
Alors, le rosé piscine, ça coûte 3,80€.
Est-ce que vous allez abandonner l'Inès pour tout balancer en rosé piscine?
Non.
Alors, l'Inès, raconte, reparlez-nous de l'Inès quand même.
Ah, Inès.
Ah, Inès, elle avait du chien.
Attends, Inès.
Cela, il y a un médaille d'or parmi eux.
Voilà, championnat du monde des rosés en 2008. Deux fois vice-championnat du monde.
Un peu pâle.
Toujours.
Alors pourquoi ça a été marketing.
Encore une bouteille marketée avec une forme très particulière de presque de parfum.
Pour qu'on le reconnaisse de loin. Ouais.
Disons que ça, donc le produit, c'était de l'idée, c'était de faire un rosé un peu plus haut de gamme. Les rosés dans le sud-ouest, historiquement, sont des produits qui étaient des sous-produits du rouge. On faisait du rosé pour concentrer des rouges. Et on essayait de le vendre.
Bon, pour voir les excédents.
Voilà, c'était l'exemple typique, c'est le Claret de Bordeaux. C'est-à-dire un truc qui était mi-rosé, mi-rouge, et qu'on essayait de, tant bien que mal, de vendre. L'idée d'Inès, c'était de sortir justement de ce ghetto qui était le rosé, pour essayer de faire des choses plus qualitatives. Donc travailler la vigne déjà, vraiment pour orienter vers des rosés excellents et d'excellence. Donc on a fait des sélections avec des terroirs qui étaient spécifiques pour recevoir, pour pouvoir faire des rosés. Et derrière ça, on a mis la technologie qui nous a permis réellement de tirer la quintessence du produit.
C'est quoi la technologie qui tire la quintessence du produit aux amis des iPhones à l'intérieur?
Non.
Il y a de la technologie là-dedans, mon gars. On m'appelle. Oui, qui est à l'appareil?
On n'a pas passé le bac S avec. Non. Et on n'a pas mis de betterave non plus.
Pour une fois que c'est pas moi qui dis des conneries, ça va. Hein.
Non, c'est quand on parle de technologie, c'est-à-dire qu'on a travaillé spécifiquement des itinéraires techniques pour pouvoir vinifier l'Inès. On a fait ce qui ne se fait pas d'habitude sur un rosé, c'est qu'on a fait un élevage sur lit, c'est-à-dire que sur lit fine, c'est-à-dire que
une fois sur canapé.
Et pas sur canapé. Non, surtout pas.
Il est pas on l'a déjà expliqué plusieurs fois, mais redis-le Pascal, il est élevé sur lit, c'est-à-dire qu'il n'est pas filtré, hein, c'est ça.
Voilà,
merci de le redire.
Les lits, ce sont les un peu les bourbes, c'est les pots de raisin,
les
voilà. Non, pas le résidu, enfin, non, c'est ce qui va donner le goût. C'est ce qui va vraiment, ça va diffuser le goût dans le vin. Et on le bâtonne, les lits, on les bâtonne, c'est-à-dire on les remue une fois par semaine pour que, en suspension, ces petits bouts de matière donnent leur goût au raisin, au vin. Ce qui est déjà du vin.
Ils vont donner un peu plus d'arôme au niveau du vin, et c'est toujours plus intéressant. Bon, c'est une technique qu'on utilise plus facilement sur les rouges que sur les rosés. Donc
sur les blancs aussi. Moi, je bois souvent du muscadet.
Oui, le vin de voile. On fait du vin de voile, on fait des vins sur lit.
Muscadet, c'est bon.
Mais sur le rosé, c'était pas quelque chose de très. C'était pas quelque chose de développé, notamment dans le sud-ouest. Donc, mais nous, on a été précurseurs là-dedans. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à avoir un produit qui est vraiment très, très sympathique. Et on a quitté complètement le monde du rosé à proprement parler, typique sud-ouest que l'on avait il y a une quinzaine d'années.
Le cœur de cible de l'Inès, c'est qui? Est-ce que c'est moi? Parce que je le préfère, par exemple.
Alors, là, ce sont les hommes. Des hommes.
Ouais. Ah, c'est moi.
Les hommes.
Animateur de radio.
Animateur de radio, 40, 45 ans.
C'est lui. C'est le seul acheteur de l'Inès qui est.
Je suis la cible.
Le cœur de cible.
Eh ben, ça. Non, mais moi, je préfère celui-ci. Oui. Voilà.
C'est
manifestement, il y a un jury aussi composé d'un certain nombre de gens qui ont préféré celui-là parce qu'il est médaille d'or et champion du monde.
Oui, mais disons qu'il concourt pas, il ne concourt pas dans la même catégorie. Voilà, là, on est vraiment dans une catégorie supérieure. Et c'est vrai que
Pour ça.
De suite, on est sur autre chose, quoi.
Frimeur.
Ça va pas du tout avec la praline. Avec la praline, c'est pas très beau.
On déguste. Tout à l'heure, notre invité Xavier Priouat parlait des nouvelles technologies. Et justement, Fabien, aujourd'hui, tu es notre spécialiste S-technologie.
Ouais. Quelques petites brèves sur les nouvelles techno. Alors, le retour du PSN, j'en parle parce que je me suis aperçu que plein d'utilisateurs n'étaient pas au courant. Donc si vous avez une PS3, donc une PlayStation 3, vous pouvez ou pas être connecté au PSN. Il faut savoir que suite à des piratages, Sony a eu plus d'un mois d'interruption de son service PSN. Le PSN, c'est le PlayStation Network, où tu peux acheter certains jeux en ligne, acheter des extensions pour tes jeux, obtenir des démos gratuites. Donc c'est vrai que beaucoup de gens qui ne jouent pas en ligne ou qui n'achètent pas les jeux en ligne ne s'en servent pas forcément, ne se connectent pas. Mais il y a quand même eu une panne d'un mois suite à des piratages, et Sony, pour s'excuser de la panne, offre à tous ceux qui étaient inscrits sur le PSN, qu'ils aient déjà acheté un jeu ou pas, il suffisait d'avoir été au moins une fois se connecter dessus, même sans rien faire, leur offre deux jeux gratuits parmi un choix de 5, et des jeux relativement restants et sympas, en version complète que vous garderez, et vous offre aussi 30 jours d'abonnement au PSN Plus, qui est un réseau, donc c'est comme le PSN, mais en version payante, celle-là, le PSN Plus, mais qui vous donne droit, par exemple, à des jeux gratuits, donc vous êtes abonné au PSN Plus, à certains jeux qui sont gratuits, ou alors sur d'autres jeux, vous allez avoir 50% de réduction en permanence. Donc c'est quand même sympa, c'est à tester, je me suis aperçu que plusieurs utilisateurs PS3 le savaient pas. Donc regardez sur le site de Play, enfin de Sony sur la PlayStation, ils vous expliqueront la démarche, vous avez droit à des jeux gratos, c'est toujours bon à prendre.
Ah ben voilà.
Quand on est dans les consoles, il y a pas très longtemps la présentation de la remplaçante de la Wii qui s'appelle la Wii U.
Non.
Ah, très 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 drôle. Wii U, non mais Wii, nous et You, vous. Ils ont fait encore un super jeu de mots. Là, Wii, c'est du grand marketing. Alors finalement, très peu d'infos sur la console, puisqu'ils ont surtout présenté la manette qui se veut révolutionnaire. Parce que la manette sera avec un écran tactile. Donc pendant que tu joues sur ton jeu, sur ta télé, hop, il y a quelqu'un qui a besoin de regarder les infos. Tout l'écran, ce que t'avais, toi, bascule sur ta manette, qui a un petit écran tactile, et tu continues de jouer sur ta manette, comme sur une console portable. Après, tu peux rebalancer sur la télé, c'est tactile, bon, enfin, voilà, très très, je trouve ça un peu gadget, à mon avis, j'ai un peu peur du prix. La console en elle-même, on a eu peu d'infos, on a réussi à avoir des infos des premiers développeurs qui ont eu les kits de développement, elle semble plus puissante que la PS3, ce qui pourrait paraître une bonne nouvelle, en fait, c'est pas super bonne nouvelle, parce qu'elle va sortir que dans un an. Et elle est à peine plus puissante que des consoles qui ont déjà 3, 4, 5 ans.
Mais moi, je suis vachement étonné, j'ai jamais eu de console de ce genre-là, mais est-ce qu'à chaque fois qu'on change de console, on est obligé de changer de jeu, ou est-ce que nouvelles consoles doivent reprendre les...
C'est Sony avec la PS2 avait lancé ça, de reprendre les jeux PS1. Là, la Wii a enchaîné, c'est-à-dire que la Wii U, tous les jeux Wii pourront passer dessus. Les accessoires qu'on a achetés, comme les manettes, les guitares, la balance pour jouer, enfin tous ces trucs-là vont être entièrement compatibles.
La balance pour jouer au petit dealer sur la Wii, tu sais.
Voilà, c'est ça, ouais. Tiens, je te coupe, je te fais 15 grammes.
En même temps, quand on voit certains des jeux qui sont diffusés,
ça sera compatible. Non, il y a rien d'autre. L'iPhone 5 en septembre. Pour ceux qui veulent, normalement l'iPhone 5 devrait sortir en septembre avec un appareil photo 8 mégapixels.
Est-ce que ça vaut le coup les iPads là, les iPods,
les tablettes. Ouais, enfin, il y en a plein d'autres. C'est iPad, c'est celle d'Apple.
Il y a des tablettes. Il y en a un Montauban qui fabrique ça. Oui, à Montauban, il y a un fabricant, pas d'iPad, mais d'une marque.
D'une autre tablette. Tablette magique.
Mais il y a une.
L'ardoise magique.
Je dirais que
c'est gadget bobo, c'est voilà.
Je vais en acheter une.
Vas-y, fais-toi plaisir si t'as un usage. Moi, j'arrive pas à voir l'usage. Je trouve que c'est 500 ou 600 ou 700 euros. C'est hors de prix. Bobo. C'est hors de prix pour un truc qui sert pas à grand chose, quoi.
Autant avoir un ordinateur portable.
Ouais, voilà.
On va demander à Christophe de l'acheter. C'est un gadget.
Voilà, Christophe, pour filer en boîte.
Xavier, vous avez pas, vous, un iPad?
Non.
Nous arrivons au téléphone.
Chef Cyril.
Alors, chef Cyril, qu'on a déjà reçu dans cette émission, qui est le chef de l'auberge de Bardigue. Cyril, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va? Alors, c'est pas Cyril Lignac, hein? C'est pas lui.
Ah bon?
Non, c'est pas
lui. On m'aurait trompé, on m'aurait menti. Mais non, c'est chef Cyril de l'auberge de Bardigue. Il se passe quoi?
C'est où l'auberge de Bardigue, rappelle-nous?
Ben, Bardigue, vers Valence d'Agen, par là.
Ouais.
Hein? On y va comment à Bardigue?
Valence d'Agen, il faut passer par Auvillard, et on est à 4 petits kilomètres d'Auvillard.
D'accord.
On a sûrement son ville.
Et qu'est-ce qui se passe dimanche à l'auberge de Bardigue?
Ce dimanche-là.
Oui, ce dimanche, t'as vu.
Dimanche, il y a beaucoup d'animations sur Bardigue. On a tous nos producteurs avec qui nous travaillons toute l'année, qui viennent animer le village. Ensuite, on organise un grand banquet avec, bien sûr, les produits des producteurs. Ensuite, il y a aussi des démonstrations culinaires, des découvertes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pas mal de jeux pour les enfants.
Il y a un quiz, un quiz mots et saveurs.
Comment?
Il y a un quiz.
Il y a un quiz, oui. C'est...
Un quiz, oui, pardon. Des... Bardi, on prononce un quiz.
Mais t'es un fake ce soir, toi.
Ah ouais, non, mais
il y a des jours comme
faut
ça.
Faut pas discuter avec lui.
Non, avec un quiz. Un quiz cuisine doté de nombreux prix. Il y a des kilos de pommes de terre, il y a du gigot, il y a du plateau de fromage offert par la fine bouche, il y a des plateaux de pêche et du chorizo bayotte. Ah, mais moi, je vais y aller quand même pour le quiz.
Le quiz.
Bah oui, le quiz. Il y a un troc de livres de cuisine. Alors, j'ai trouvé ça génial. Comment ça se fait que tu as plein de blogueurs et de blogueuses qui viennent animer tout ça? Ça m'a vachement étonné.
Nous, on aime bien naviguer sur sur les blogs, sur Internet. Et puis, pour l'auberge, nous, ça a été un moyen de pouvoir se faire connaître en dehors, justement, du département, et aller plus loin, se faire découvrir. Enfin, faut que les gens connaissent notre établissement en dehors, on va dire, de la région, quoi. Pour nous, c'est un moyen de communication autre que les autres moyens de communication qu'on peut trouver.
T'as pas eu un prix, là, pour ton site, un truc comme ça?
Si, nous avons eu, au niveau départemental, un prix décerné par la Chambre de commerce et d'industrie de Montauban. Après, on a participé à un autre concours au niveau régional. Bon, là, on a...
Mais là, tu t'es fait ramasser.
Comment?
Tu t'es fait ramasser ou
on
tu
as... On s'est fait ramasser parce qu'il y avait quand même des sérieux candidats.
Non, ton site est vachement sympa. Il y a beaucoup de liens, beaucoup de liens vers des blogs. C'est bien foutu. Il y a plein de vidéos, il y a plein de trucs. Moi, j'ai trouvé ça bien tenu par rapport à ton métier, donc qui est de faire de la cuisine et de proposer des choses sympas. Donc, des producteurs dimanche. Quel genre de producteurs? Qui c'est qu'il y a?
Ben ça va du producteur, on va dire, de légumes, de fruits, mais aussi producteur de fromage de chèvre, producteur de vignerons aussi, des vignerons, que ce soit en agriculture raisonnée ou voire en biodynamie. Qu'est-ce que nous avons d'autre aussi? Des producteurs de charcuterie espagnole aussi, avec qui je travaille depuis très longtemps.
Olé,
voilà.
C'est de la charcuterie qui parle espagnol.
Nous travaillons aussi, bon, c'est pas forcément des producteurs, mais c'est vient d'Occitane, sur Montauban, où ils travaillent beaucoup avec beaucoup d'éleveurs en Occitanie, on va dire, dans la région.
Donc,
pour moi, c'est important de travailler de la viande française. C'est pas facile.
Pourquoi c'est pas facile de travailler avec la viande française?
Comment ça, c'est pas de la cimentale?
Non, c'est pas de la cimentale.
La cimentale, c'est allemand.
C'est suisse au départ.
C'est suisse. Hein.
Bon,
c'est suisse au départ.
La question de Rémi est bien. Mais pourquoi c'est dur de ne. Enfin, pourquoi c'est dur de travailler avec la viande française?
Je te remercie de soulever.
Non, parce que Pascal. Parce que Pascal est en train de dériver. Non, on
Cyril,
a pas la
Cyril,
réponse.
Cyril, pourquoi c'est dur?
Pourquoi c'est dur? Parce que c'est les coûts sont un peu plus élevés. Quoi.
C'est beaucoup plus cher.
C'est beaucoup plus cher. Et quand on travaille, c'est des petits menus. C'est pas forcément.
C'est comme l'apéro.
Non, c'est pas comme l'apéro. C'est pas du tout comme l'apéro. Parce que le problème de la viande. Mais j'y reviendrai parce que je ferai une émission spéciale sur pourquoi de la cimentale partout. C'est très simple.
Non, mais
en fait,
on va pas faire une émission avec un mec qui est pété de thunes, de toute manière, qui ne comprend pas le problème de la ménagère d'aujourd'hui.
Bon, enfin, la cimentale, tu vas la bouffer. Au resto, personne n'en bouffe en supermarché, la cimentale.
Non, très peu, non. Ça se trouve pas, je crois pas.
Ça ne se trouve pas. C'est uniquement pour les professionnels.
Voilà.
Et crac.
Et après, le cimental, on le trouve vraiment dans les restaurants quand même assez gastronomiques, quoi. Hein, où les prix sont quand même assez élevés, quoi. On le trouve pas en bistrot ou en petite auberge comme chez moi, quoi.
Ça veut dire que la viande française est encore plus chère.
Mais attends, mais pourquoi?
Et vous allez chez Monsieur Mourgue, vous prenez,
ouais,
vous prenez,
c'est cher,
vous.
Aller chez Mourgue.
Non, pas du tout. Je l'ai fait découvrir à Pierre Cantegrel du Faubourg 73. Maintenant, il en sert.
Mais oui. Enfin, Mourgue,
pourquoi tout le restaurateur n'irait pas au producteur le plus proche?
C'est compliqué, Cyril. Hein. Dis-leur que c'est compliqué.
Pourquoi vous n'allez pas chez Mourgue, Cyril?
Mais disons qu'en boucherie, en détail, on trouve bien sûr la viande française. Mais c'est au détail. On ressent moins le prix comme au restaurant. Parce qu'au restaurant, nous, on travaille bien sûr avec des grossistes. Mais moi, je me suis fâché avec certains grossistes parce qu'ils ne me trouvaient plus de viande française.
Mmh, et parce que, en termes de prix, de législation.
On ne produit pas assez de viande française et la demande est très importante en France.
Dans le cas de la cimentale, c'est simple. C'est des bestiaux qui sont mixtes, c'est-à-dire qui font à la fois du lait et de la viande, donc c'est des vaches, c'est pas du bœuf. Et les Allemands achètent l'avant et nous, on bouffe l'arrière.
C'est ça.
Donc, les Allemands payent l'avant. grosso modo. Et l'arrière, il coûte rien, donc il est vendu pas très cher pour une viande qui est très persillée.
Imaginez ce que c'est que le marché européen. Mais les Allemands achètent l'avant, mais nous on achète l'arrière.
Les Espagnols bouffent les queues. Olé. Ou les oreilles.
Bon. Et les Grecs, il leur reste les cornes. Bon.
Attends, à part ça. Le banquet dimanche chez chef Cyril à l'auberge Bardigue. Médaillon de foie gras et de canard mi-cuit, ruban de melon, chutney d'abricot et pain d'épices grillé, longe de porc farci au chorizo d'Andalousie, d'Artemonte, piquillos aux courgettes. Alors piquillos, ça fait partie du quiz. Hein,
voilà.
Et patatas bravas. Je sais pas s'il est dans le quiz celui-là.
Non, je crois pas.
Non. Petit pot de vanille, pêche blanche du verger dans ce lin, puis l'amande. Et tout ça, ça coûte 25 euros. Et ben, nous, on y sera parce qu'on trouve que c'est bien. Et puis, il y a une bourse au bouquin de cuisine.
Ça, oui. Ça m'intéresse. Ça, c'est vachement bien. Dernière question, Cyril. Est-ce qu'à la carte des vins sur, oui. La carte des vins de l'auberge de Bardigue, il y a du fronton?
Oui.
Lequel?
Alors là, je suis cuisinier.
Non, moi, c'est pas Pénavert.
C'est le maître d'hôtel qui s'en occupe.
Non, c'est pas Pénavert. J'ai été surpris d'ailleurs que ça soit pas...
On travaille avec plusieurs frontons, mais en particulier on travaille avec le château Boujac. Voilà.
D'accord, des producteurs quoi. Hein.
Oui.
Rien de la cave?
Non.
Non, c'est l'industriel. Mais on nous met un rosé prêt. On va t'amener un rosé piscine dimanche. J'espère que tu as des glaçons parce qu'on va t'amener un rosé piscine.
C'est de l'industriel qui dit. Non, mais ne vous laissez pas faire, Xavier. C'est pas industriel.
C'est pas du tout industriel.
On est bien d'accord.
De toute façon, nous sommes encore au niveau des artisans par rapport à des véritables industriels du monde du vin.
Non, tout à fait.
On est loin de vendre un milliard de bouteilles.
Cédric. Allô. Cyril, pardon. Merci. À dimanche 26 juin à l'auberge de Bardigue. Et
c'est dimanche.
Pour tout savoir sur cette belle journée,
aubergebardigue.com.
Voilà.
C'est tout.
Merci de ne pas jeter sur la voie publique.
Donne-moi ça, toi.
Merci.
Allez, à la prochaine. Merci.
À dimanche.
Au revoir.
Moi, je vais y aller, je vais faire des photos.
Alors, pas avec un verre vide, s'il vous plaît.
Oui, quand même.
Chill.
On passe au rouge.
Ah, on passe au rouge. Alors, il faut basculer. Santé.
Allez. Passe le diffusion de Bordig.
Allez, à tout de suite après les infos.
CFM. CFM.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Técou et des vignerons de Rabastens? Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Ah, il va faire chaud ce week-end, ça c'est sûr. Pour vous introduire dans cette belle fin de semaine, encore un petit peu de qu'est-ce qu'on déguste avec, vous l'avez entendu, Pascal Olivier, Fabien Martinet, Gaël Stenbach et notre invité Xavier Briouat, directeur adjoint de la cave de Fronton. On a bu du rosé piscine, on a bu du Taranis, on a bu de l'Inès. Pour moi, c'est l'Inès qui a ma préférence. On a basculé dans maintenant le rouge et on est à l'Astrolabe, hein, je crois, c'est ça.
Oui.
L'Astrolabe, on le connaît un petit peu ici. Je crois qu'on l'a déjà un peu dégusté, mais vous allez.
En blanc.
Vous
allez... Attention, c'était pas le même cépage.
C'était
on
pas
l'a bu
le
en blanc.
Je vais vous expliquer le concept de l'Astrolabe.
Ouais.
Astrolabe. Écoutez, en fait, c'est la découverte de nouveaux territoires sensoriels.
Ouais.
C'est beau ça.
C'est pas mal.
Ils prennent combien là, l'agence de com là, à chaque fois là?
Non, mais attends, c'est géant. L'idée est géante. Donner un nom à un vin et changer le.
En fait, l'idée c'est de dire bon, dans le monde, il existe des cépages qui sont consommés par 80-90% de la population, qui sont le Merlot, le Cabernet Sauvignon, entre autres le Chardonnay, le Sauvignon. Nous avons dans le sud-ouest des cépages autochtones qui sont rares. La négrette à Fronton, donc on a fait un astrolabe négrette, c'est ce qu'on déguste maintenant. On a fait un astrolabe loin de l'œil, un astrolabe brocol et un astrolabe malbec ou côte pour le Cahors.
Pour le Cahors, voilà. Loin de l'œil.
Pour le Gaillac, brocol également et négrette pour le Fronton. Donc c'est offrir aussi aux clients et aux consommateurs de vin qui sont dans la région mais qui aussi sont à l'extérieur des cépages typiquement du sud-ouest. qu'on ne trouve nulle part ailleurs.
La négrette. Alors que vous communiquez pas sur les cépages.
Mais vous communiquez pas sur les
cépages.
Moi hier
j'étais à Vinexpo, mais Vinexpo, alors Vinexpo c'est la foire mondiale du vin tous les deux ans à Bordeaux. Et là c'était Malbec, Cahors c'est Malbec, Malbec.
Non, c'est l'interprofession des vins de Cahors qui communique
oui, Cahors Malbec. Malbec.
Oui, tout à fait.
Donc le cépage, puisque les Américains boivent le vin non pas par rapport à un terroir, mais par rapport à un cépage.
Tout à fait. Mais sur Astrolab, c'est de partir sur la possibilité de communiquer sur plusieurs. Nous, si on communique aujourd'hui, bon, Vinovali, c'est une structure qui est certes importante, mais qui est encore toute petite au niveau mondial. Si on essaie de communiquer sur la négrette, sur le brocol, ou sur le loin de l'œil, ou le landelel,
si on... Enfin, négrette, c'est Fino Saint-Georges, nous dirait Ali Mamoudi.
Oui, bien sûr.
À chaque fois.
Pour les Australiens.
À chaque fois, c'est du 100%.
À chaque fois, c'est du 100%, effectivement. Et on est un pur cépage. Et si on communique sur ces notions-là, non, personne ne consommera nos vins. Donc il faut que l'on trouve la possibilité de communiquer sur une marque, Astrolab, et ensuite de présenter nos cépages qui font notre identité.
Un peu comme notre cher Georges avait monté sa gamme de vins quand il était encore négociant en vin.
Ça s'appelait comment ce truc-là? On l'a complètement oublié.
Est-ce que c'était pas les chemins de Saint-Jacques?
Mais bon Dieu, mais bon sang, mais c'est bien sûr.
Ah, Georges, justement, Georges, on va lui
passer par là.
Un coup de fil. Georges qui est excusé ce soir puisque il est
à Eos.
Retenu à Eos parce qu'il joue à Eos ce soir. Georges qu'on appelle et qui peut-être nous écouter sur internet, je l'espère.
Georges, je les répète. Là,
as-tu entendu ce que l'on vient de dire sur ton vin?
Allô.
Salut Georges, ça va?
Oui, bonjour, comment ça va?
Eh ben ça va bien. T'as entendu ce qu'on disait sur ton vin à l'instant?
Non, pas du tout.
T'as bien fait.
Oui, vous parliez de quoi? Du Saint-Jacques?
Bah oui.
Ouais, par exemple.
Par exemple?
Alors, on te passe un coup de fil parce que tu sais que notre invité de ce soir, c'est Xavier Briouat de la cave de Fronton, qui fait partie donc de Vinovali. Et il y a Vinovali Jazz, troisième édition, qui va se dérouler du 20 au 23 juillet. Donc on va parler de jazz un petit peu avec toi et on évoquera la programmation de ce festival dans quelques instants. Mais avant, je crois que Pascal voulait te poser une question.
C'est un petit
concernant
quiz.
L'apéro déjà. Déjà, qu'est-ce que tu bois?
Ah oui,
l'apéro,
qu'est-ce que tu bois là, Eos?
Alors ce soir, on joue à la Bille de Saran. C'est à côté de Condon et de Eos. Et c'est pour le lancement de la nouvelle bouteille du Floc de Gascogne. Donc on se rapproche toujours des boissons du sud-ouest.
Donc tu bois du Floc?
Ouais, tu bois du sucre. Tu peux mettre des glaçons, hein.
Tu peux mettre des glaçons dans le sucre. N'hésite pas sur le glaçon dans le sucre, ça le dilue. C'est
le Floc piscine, tu sais, tu peux faire, t'as le droit.
Donc, Vinovali Jazz, donc du 20 au 23 juillet. Une question, Georges. Quel est le pianiste de Pink Turtle?
Je crois que c'est le fils de Barnaclu.
Hein. Ah oui, eh oui, Jean-Marc Montaud. Bravo. Ben, tu as gagné une bouteille de rosé piscine. À boire impérativement avec des glaçons.
Donne-nous la programmation, tiens, tant pis.
On la garde pour vendredi prochain, on la dégustera ensemble.
D'accord.
Oui, on va la garder, je crois. Ça se garde une semaine dans un placard? Ou alors c'est impérativement au frais?
Non, dans un placard.
On va la garder au frais.
Donc, est-ce que tu es au courant, Georges, du programme de Vinovali Jazz? Qui se déroule dans à la fois dans la cave de Fronton, du côté des Côtes d'Olt, à Rabastens, à la cave de Técou. Et truc pas mal, Yumuri, El Soniero de Cuba. Ça, c'est le 20 juillet. Il y a aussi du flamenco jazz.
Est-ce que tu connais Rodolphe Raffali Quartet?
Non, pas du tout.
Jazz manouche.
D'accord. Alors, c'est un quiz qu'on te fait. Là, on est en train de tester si on te garde Christophe encore Télèze. Dans l'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste. Hein.
Christophe Télèze, tu connais.
Vous me garderez la programmation.
Non mais Georges, on te demande pas de détails. Tu dis oui à toutes les questions, comme ça au moins tu restes.
Et le trio Bergin qui fait un hommage à Gainsbourg, est-ce que tu connais ça?
C'est rigolo, non, le trio Bergin, non?
Christophe Télèze Quartet.
Oui,
quand même.
Et la mal coiffée, ça te dit quelque chose?
Non, mais ça se sonne
si,
des
Georges,
polyphonies
dis
occitanes.
Oui.
C'est très très connu dans le milieu occitan. Et c'est quelque chose d'énorme. Ouais. Ils sont le 3 juillet à la Félibré à Belvès.
Christophe Télèze, tu nous en parles, Georges?
Oui, Christophe Télès, c'est un saxophoniste toulousain qui a eu l'occasion de jouer pas mal au Festival de Jazz de Montauban. Bon, là, il joue pas mal de Nouvelle-Orléans, mais là, je crois qu'il a pris une formule où il joue un jazz un petit peu plus moderne.
D'accord. Et Minino Garay.
Garay.
Jazz fusion argentin.
Ou alors ça doit être du tango, quoi.
Olé. Bon Georges, finis ton floc. Essaye de pas faire des flocs ce soir.
À vendredi prochain.
Bon, tu reviendras la semaine prochaine quand même.
Vous avez parlé un petit peu de Vinexpo?
Ben très peu.
Ah oui, c'est vrai, vous y aviez été hier.
Bras dessus.
Ils ont pris le cul.
Hier on était à Vinexpo, on a fait un petit peu le tour. Il y avait des choses très intéressantes. Et on a été étonnés surtout parce qu'il y avait beaucoup de vins étrangers. Il y avait des vins même brésiliens. On a goûté du blanc brésilien qui était assez exceptionnel.
Ouais.
Et puis il y avait beaucoup de vins chiliens, beaucoup de vins italiens, des vins de toute l'Europe. Je crois que même il y avait des vins suisses. On n'est pas tombé dessus, mais ça aurait été intéressant.
Georges, est-ce que vous êtes arrêté au stand libanais?
Les vins de la Beka, on y est passé devant.
Il y a un excellent vin de libanais qui s'appelle Château Kefraya. C'est énorme. C'est énorme. Moi, j'ai fait la dégustation. J'ai fait deux verticales en rouge et en blanc. C'est un truc énorme.
Oui, mais c'est le vin de Chichon, ça. Donc, il faut faire attention quand même. Nous, on avait de la route à faire derrière.
Ah, ça y est.
Par contre, on a fait une dégustation de Côte du Rhône et de Vaqueras.
Ouais.
Qui était de très très bonne qualité.
On peut pas tout boire à Vinovali.
On peut pas tout boire non plus à qu'est-ce qu'on déguste. En plus, il a ouvert une bouteille.
Pourtant, on essaye. Hein, ouais.
On boit les excédents. Là. Voilà.
Je sais que vous dégustez avec modération.
Oui, t'aurais une médaille, Georges. Tu peux revenir.
À la semaine prochaine, Georges. Bon concert.
Ciao.
Bonsoir.
Bonne
fin
de soirée.
Salut.
Merci
à toi aussi.
Oh, on boit.
Alors, petit rappel, Vinovali c'est quoi? Vinovali en fait c'est un groupement de caves dans le sud-ouest, il y a des caves de Fronton, les caves d'Olt,
Vigneron de Rabastens, Brulois.
Voilà. Non, pas Brulois, la cave de Técou.
La cave de Técou, alors voilà, ce sont quatre caves qui se sont unies pour être plus fortes En quoi? En marketing,
en commerce, c'est-à-dire
que
partout.
Du coup, il y a des commerciaux qui, quand ils vont dans, par exemple, on sait la difficulté que c'est de rentrer en grande distribution. Quand ils vont voir les mecs de la grande distribution, au lieu d'arriver tout seul en étant bonjour, on est la petite cave de Fronton. Oh, on est Vinovali.
Oui,
Vinovali, tu vois, ça en a plus, quoi, tu vois. c'est ça l'idée, c'est d'être plus fort, en fait, commerce.
L'idée de Vinovali, elle est partie d'une idée toute bête et d'un constat tout bête. Imaginez quatre directeurs commerciaux export qui se retrouvent dans le même avion, qui vont voir le même agent commercial, au Japon, par exemple, qui vont voir les mêmes clients et qui paient chacun leurs notes de frais d'hôtel, de restaurant,
surtout qu'ils voyagent en classe affaires, les types.
Pour l'avoir fait, la classe affaires, on la voit pas. On y passe devant, mais c'est tout. Bon, l'idée, c'est de se dire, bon, mais c'est absurde. Nous sommes absurdes. Nous avons chacun nos produits. Nous arrivons chacun avec les 3-4 petites bouteilles que nous avons. Et qu'est-ce qui ferait qu'on mettrait dans un avion un seul commercial pour représenter les quatre caves, mais au lieu de mettre qu'un commercial, on en met quatre dans quatre avions différents, et donc on fera quatre fois plus de dégâts, enfin du moins on fera quatre fois plus parler de nous.
On ouvrira quatre fois plus de terrain.
Est-ce que ça a changé quelque chose au niveau de la production? Par exemple, le rosé piscine, est-ce que c'est quelque chose que vous faites, enfin vous les quatre interviennent, ou est-ce que vraiment chacun a gardé ses particularités, sa cave de d'habitude, c'est juste un regroupement commercial marketing, ou ça a changé la manière de travailler?
Non, ça a changé la manière de travailler, parce qu'en fait on a spécialisé les sites. Problème majeur de la viticulture, notamment quand on arrive sur des volumes assez importants, c'est qu'il faut sélectionner ses investissements. On peut pas investir dans un pressoir, c'est 150 000 euros. Mmh. Donc on peut pas faire un pressoir, faire aussi une machine pour étiqueter les bouteilles qui coûtent là 200 000 euros. Enfin bon, au bout d'un moment, il faut quand même rester très pragmatique par rapport à tout ça. Donc ça permet de spécialiser les sites. Et ça permet aussi d'avoir une meilleure approche du marché. On a fait notamment
Notamment. Vous laissez pas démonter parler.
C'est de l'a priori.
Alors, pour les auditeurs en ligne, il y avait des signes qui passaient sur certaines bouteilles. Voilà.
Vous découvrez ce que Henry Ford a découvert en 1910.
Voilà. Tout à fait.
Oui, mais ça vous parlez de la manière, dire tel entre, enfin, le, oui. Celui-là des quatre va acheter la machine à étiqueter, le deuxième va acheter le pressoir. Mmh. Mais moi, je parlais au niveau de la culture. Est-ce qu'à un moment, certains ont dit, bah, j'arrache certains pieds, je vais me spécialiser dans d'autres pieds ou en planter plus, ou est-ce que chacun a gardé quand même ses sa méthode de travail?
Oui, on a chacun gardé sa spécificité, son histoire.
Vous
son
rationalisez
historique.
Le matériel.
Voilà, on rationalise le matériel. On essaie aussi d'apporter de nouvelles compétences, parce que le fait d'apporter justement un plus au niveau d'une structure qui s'appelle Vinovali, on attire de nouveaux arrivants dans les appellations, notamment à Fronton. Il y a 2 ans, il y a un nouvel œnologue qui est arrivé, Pascal Nascenta, qui a complètement révolutionné la façon dont on travaillait le rosé. Mais parce que il a une culture, il a une historique au niveau de l'approche viticole et l'approche œnologique qui est complètement différente. On n'a pas peur aujourd'hui d'aller chercher aussi des personnes qui viennent, qui ont travaillé à l'étranger, qui reviennent en France, des Français, qui reviennent en France. On a notamment embauché il y a peu de temps une personne qui revient d'avoir passé une dizaine d'années entre l'Afrique du Sud, l'Australie, la Turquie, et revient aujourd'hui en France pour travailler avec nous. Et c'est vrai que ça nous permet vraiment d'être beaucoup plus à l'écoute du marché. Aujourd'hui, le problème fondamental que nous avons dans le monde du vin, c'est que les bassins de consommation s'éloignent des bassins de production.
Mais on boit plus les excédents ici.
Et non, c'est pour ça qu'il faut trouver des Chinois.
Il y a des alcomètres, des alcotests, il y a des flixures, des radars, des machins, des trucs comme ça, donc on peut plus picoler. Donc.
Et Vinovali, c'est 4 et c'est fermé ou c'est appelé à s'agrandir, à s'ouvrir?
Non, c'est ouvert. C'est l'idée de Vinovali, c'est que ensemble on est meilleur que chacun isolé.
Il y aura pas des mecs de Bourgogne comme.
Non, mais
d'autres producteurs locaux pourraient rejoindre.
C'est régional.
La question fondamentale, est-ce que le vin de demain, ça va être un vin de terroir? Est-ce que ça va être un vin de vigneron? Ou est-ce que ça va être un vin industriel? Marketé.
Je vois ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que demain, est-ce que les vignerons à la fois des Côtes d'Olt, de Fronton, finalement de tous ces vignobles qui ont des terroirs très différents les uns des autres, même s'ils sont très rapprochés les uns des autres, pourraient finalement se retrouver dans une plus grosse coopérative que deviendrait Vinovali pour créer un nouveau vin.
Non, en fait, je dirais un
nouvel assemblage.
En fait, je dirais les deux, mon colonel.
Oui, parce que non, tu dis non, mais on ne demandera pas ton avis. Toi, tu vas être vendu et racheté.
Laisse-le parler. Laisse-le parler.
Un fonds de pension et puis non, fouette.
Nous sommes dans la coopération. Nous ne pouvons pas être achetés par un fonds de pension canadien, par exemple, qui. Non, c'est pas possible. Non, en fait, il y aura les deux qui vont fonctionner. Sur 5-10% du marché, on aura des vins, effectivement, où là, on va être sur des vins élaborés, d'appellation d'origine. Mais par contre, le gros du marché se fera sur des vins de ce qu'on appelle les IGP, c'est-à-dire les indications géographiques protégées. Et c'est là-dessus que se fera le fond du marché. Il faut bien penser une chose, c'est que quand on est aussi bien en Angleterre que quand on est en Chine ou aux États-Unis, la personne qui achète le vin ne connaît strictement rien aux 450 appellations d'origine protégées françaises qui existent. Ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent complètement.
C'est pas une question de prix en plus.
Non, pas du tout.
Nous, on a été étonnés avec Georges hier à Vigne Expo. C'était par rapport à il y a 2 ans, l'augmentation notable du nombre d'Asiatiques, notamment chinois.
Oui.
Aujourd'hui, il n'y a pas une grande marque de vin qui n'a pas sur sa plaquette ou sur son fronton marqué quelque chose écrit en chinois.
Bien sûr, mais nous,
vin rare et machin, et c'est écrit en chinois, les plaquettes en chinois.
Nous avons une joint venture en Chine. Justement, on a monté une joint venture en Chine.
Une quoi, pardon?
Une joint venture.
Deux joint entreprises venture. Qui s'associent joint pour venture. faire une joint venture. Jointe.
Voilà.
Donc en Chine, pour faire quoi?
Pour attaquer le marché. C'est vrai que le marché chinois aujourd'hui est un marché qui est à son apogée, enfin, ou à son âge d'or.
1,3 milliard
de personnes qui consomment moins d'un litre de vin par an et par habitant.
Il faut les faire piquer.
Il faut qu'ils boivent les excédents, bordel.
Accessoirement, il faut savoir une chose, c'est que le gouvernement chinois aujourd'hui incite à la consommation de vin pour limiter la consommation et la production d'alcool de céréales. Et pour réorienter les céréales vers
la nourriture. Hong Kong est devenue une base opérationnelle. Hong Kong a décidé de faire plus de taxes. Yeah, yeah, yeah. One more time. My soul is like a beast tied to your face.
Ouais, je suis obligé de vous couper, les gars, parce qu'on...
Ah non, mais là, on y passerait des heures. Tu te rends pas compte, là. Déjà on touche le point sensible. Là,
mais c'est justement pour te donner la parole, pour que tu la gardes, parce que je pense que tu avais peut-être d'autres choses que tu nous proposais aujourd'hui.
Pas du tout. Que...
Le mec qui, comme d'habitude, n'a rien préparé.
Moi, j'ai tout préparé, mais j'ai Xavier en face qui répond du tac au tac et qui a quelque chose à dire. Donc, c'est lui qui a la parole, pas moi. Moi, je suis là chaque semaine.
Et toi, alors?
Bravo, merci. Je te le referai, celle-là.
Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu que je boive tout à l'heure? C'est ça qui a interrompu Xavier.
Il était en
virtuose. Pourquoi vous n'avez pas voulu que je boive les virtuoses?
Élevé en barrique et l'autre.
Je vous explique, monsieur.
Il y a une différence.
Il y avait, pendant que Xavier parlait tout à l'heure, deux bouteilles posées sur la table. J'ai voulu prendre
l'astrolabe
et les virtuoses. Ils m'ont dit non. Ne touche pas les virtuoses, comme si la bouteille des virtuoses haute expression de Fronton 2008 avait la peste
et le
choléra.
Non, c'est parce qu'on l'a goûté avec Gaël. On l'a goûté avec Gaël.
Ils ont caché la bouteille.
Il a été élevé en fût et c'est hyper, hyper marqué. Le virtuose vient de cuve et largement...
Bon, après,
c'est-à-dire, la différence, c'est qu'un élevage qui a duré un minimum 12 mois en barrique, donc on est là sur du bois français et du bois américain. Sur les virtuoses. Yes.
Pardon.
Et voilà.
Non, mais c'est sérieux.
Il arrive avec ses éperons.
J'ai mis de l'astrolabe. J'y mets du virtuose.
Oh là, c'est gâché. Oh, non, là, c'est gâché.
Fait, c'est la joint aventure. Et je
là, c'est du bois. Il a mélangé.
Ouais, c'est à l'aventure là.
Voilà. Bon.
Des fois, non,
en fait voilà, c'est simplement d'un côté, on a un élevage barrique, donc de suite, il y a le bois n'est pas encore fondu, donc c'est quelque chose de très marqué. Ah, on le ressent bien. On sent les tanins du bois. De l'autre côté, on a un pur négrette, donc quelque chose qui est quand même très rond, très souple. On est sur des côtés florals, côté fruité quand même. Et il y a une rondeur qu'on ne retrouve pas du tout dans l'autre.
Comme tu as
un palais délicat, ils ont préféré faire attention
à toi. Le bois, c'est quand même une saloperie qui va gommer tous les détails, tous les défaults, mais aussi toutes les qualités.
Qui va apporter du plus et qui va en même temps.
Ce qu'on voulait dire avec Fabien aussi, c'est quand même sur les deux bons vins, il y en a un qui est meilleur que l'autre. On voulait surtout orienter Rémi vers celui qui était meilleur, pas vers un qui n'était pas bon.
Effectivement.
Du coup, j'ai mélangé les deux pour faire le joint.
Joint venture.
Et alors, pour faire joint venture, pourtant j'en ai pas mis beaucoup, hein. Quand même celui-ci qui a pris le pas là. Celui
ah oui,
qui
bah,
est...
non, mais c'est...
Ah bah, ouais,
c'est il faut savoir que quand on fait des assemblages, arriver déjà à 5%, 5-10% d'un vin, ça change complètement le goût. C'est quelque chose d'énorme.
On va avoir une médaille d'or, rien du tout.
Voilà. Une banane. Voilà, c'est exactement ça.
Sur très peu.
Gaël, t'as autre chose à nous dire ou bien?
On parlait un petit peu de Princesse Lily que j'ai essayé de caser plusieurs fois. Sinon, c'est vraiment bien. Ah non, c'est vraiment bien. Princesse Lily, en plus, c'est une copie.
Merde avec tes trucs pour les gosses là.
Mais les enfants, c'est un petit peu très important quand même. Mais Princesse Lily, c'est très bien parce qu'il y a deux trucs qui sont vraiment bien. C'est qu'elle a réussi à mêler un univers assez fantastique à un univers un petit peu manga. Donc on a allié deux genres, un petit peu comme l'autre fois, comme je vous ai prouvé que deux genres côté complètement opposés dans la musique avec notre ami Johnny Cash et Cypress Hill pouvaient très bien former quelque chose de bien. Et ben Elsa a réussi ce truc magique avec la culture manga. Elle a fait un truc pour les enfants qui est merveilleux. Et en plus, il n'y a pas de texte, donc vous pouvez.
C'est le joint venture.
Exactement, c'est exactement ça. En plus, donc Princesse Lily a un père qui est roi d'un royaume un petit peu imbécile. Il est un petit peu despote. Et elle, la nuit, elle se transforme en justicière avec son doudou. C'est magnifique, vraiment pour les enfants. Mes filles sont fans de ça. Et mes filles sont quand même dignes de confiance. Voilà. Ça s'appelle Princesse Lily, c'est chez Dupuis, c'est d'Elsa Brands. Et c'est vraiment très bien.
Quel
on a encore Anthony de Cavavin qui est très actif sur la chatbox de cfmradio.fr. Vous pouvez le faire aussi, hein, comme lui, de temps en temps, communiquer avec nous comme ça. et qui au début nous a dit que il préférait finalement continuer de déguster les choses qu'il dégustait à cave à vin plutôt que d'être avec nous autour de la table. Tu sais pas ce que tu rates, mon cher ami. Vous envoyez un deuxième,
je lui dirai.
Un deuxième message. Non, mais il entend, il écoute là. Ouais. Un deuxième message dans lequel il disait que le rosé piscine, et là j'aimerais une réponse mais courte parce qu'on arrive au bout de l'émission, n'était pas top parce que la preuve c'est qu'il n'avait pas été présenté au mondial des rosés. Réponse donc de.
Il a été représenté au mondial des piscines.
C'est pas fait pour.
Voilà.
C'est pas fait pour,
tout simplement. Et la troisième intervention, qui n'est pas une question, qui est une affirmation, c'est que il y a quelqu'un qui est rentré à cave à vin à l'instant et qui lui a demandé du rosé piscine.
Du rosé piscine, la preuve que ça marchera, tu vois. Mais quand on parle de quelque chose, Anthony, il faut l'avoir.
Et il n'y a pas de rosé piscine à la cave à vin à cave
Non,
à
mais
vin.
Peut-être non. Pas.
Il y en aura à partir de mardi.
Voilà.
Il y a la piscine, mais pas le rosé. Mais non, mais il y a sa copine Christelle qui boit tout, donc il ne peut pas avoir de stock.
Allez, une minute pour nous dire très rapidement ce que tu fais ce week-end, Pascal.
Fête à l'auberge de Bardigue, mais je vous en reparlerai la semaine prochaine avec des photos. Ce soir, à partir de 18h30, on est déjà à la bourre, à la ferme auberge Le Paysanne. La paysanne, l'atelier de peinture de la Salvatore Belmonte nous invite, c'est parce que c'est Madame Patard. C'est Nathalie Patard qui nous invite.
Qu'est-ce que tu fais ce week-end, toi?
Ce week-end, c'est un petit week-end cinéma, puisqu'est sortie l'adaptation de L'élève du Cobu, donc avec le petit garçon qui jouait déjà dans Le Petit Nicolas, avec aussi Elise Moon qui joue le professeur. Voilà, ça a l'air d'être très drôle.
Qu'est-ce que tu fais, toi?
Je vais aller tester l'auberge dont on parlait tout à l'heure.
L'auberge de Bardigue.
L'auberge de Bardigue. Non, mais ça m'a donné envie de menu, donc je pense que je vais aller sur
l'auberge. Non, c'est vrai, c'était assez alléchant quand même.
C'est là, ouais.
Bien sûr.
Il faut échanger, hein.
Eh ben, moi, je fais rien. Voilà.
Pour une fois que tu ne mens pas. Xavier, qu'est-ce que tu fais toi ce week-end?
Apéro avec les copains à base de rosé piscine et d'Inès.
Merci d'être venu en tout cas, Xavier Briouat, directeur adjoint de la cave à vin de Fronton. Aurélien, merci pour la technique de cette émission. Ciao tout le monde, c'était Qu'est-ce qu'on déguste, à la semaine prochaine.
Bon week-end.
C'était Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.